Le journal Yves Decamp, bonjour Yves.
Bonjour.
20e samedi de mobilisation des Gilets jaunes, de nombreux centres-villes sont interdits aux manifestations, comme le secteur des Champs-Élysées à Paris. Face au risque de violence annoncée, Avignon s'est barricadé, Bordeaux a décrété une journée ville morte. Des professeurs et des parents d'élèves également dans les rues ce samedi contre la réforme Blanquer qui prévoit notamment, pour ceux qui le souhaiteront, un regroupement des collèges et des écoles. Les syndicats y voient une menace pour les directeurs d'école. Invité de ce journal, la secrétaire nationale du syndicat à UNSA de l'éducation Claire Crépère. Pas de surprise à Londres, les députés ont rejeté comme prévu pour la troisième fois le plan de sortie de l'Union de Theresa May. Ils ont jusqu'au 12 avril pour trouver autre chose. À Gaza, des milliers de manifestants sur la frontière avec Israël où un jeune Palestinien a été tué ce matin. Les Gazaouis célèbrent ce 30 mars un an de lutte contre le blocus israélien. Dans ce journal également, Guingamp, Strasbourg en finale de la Coupe de la Ligue ce soir à Lille et non, le PSG n'est pas à l'affiche. Le polar sous toutes ses formes à Lyon, au festival Quai du Polar. C'est le conseil week-end d'Ilana Mor-Youssef, un week-end printanier pour tout le monde. 20 degrés de température en moyenne, quelques nuages sur la Manche, en attendant demain quelques ondées de la Bretagne jusqu'en Belgique.
France Inter.
Pour commencer, y a-t-il un problème de santé particulier dans le secteur de Sainte-Pazanne en Loire-Atlantique? Et si oui, lequel? À Sainte-Pazanne, mais aussi dans deux communes voisines, pas moins de 9 cas de cancer pédiatrique ont été recensés ces 3 dernières années, dont 3 ont connu une issue mortelle. Les parents s'inquiètent, y a de quoi, Grégory Julien.
Des enfants, 3 ans pour le plus jeune, la plupart atteints de leucémie, comme Alban, aujourd'hui en rémission. Dès 2015, sa mère se rend plusieurs fois par mois au CHU de Nantes, dans le service oncologie. Sur place, elle découvre alors que son fils n'est pas le seul de Sainte-Pazanne.
Dans le service, je commence à croiser des enfants de la commune que je connais. J'ose même pas les aborder, je me dis que j'hallucine, quoi. Puis encore un autre enfant, finalement, qu'on croise à l'hôpital. Et puis d'autres parents, quand on y vient, disent, bah dites donc, Sainte-Pazanne, vous venez en force ici.
Selon Marie, il y a en moyenne au moins un cas de cancer pédiatrique tous les 6 mois à Sainte-Pazanne. En tout, 3 enfants sont déjà décédés depuis 2015. Séverine est la maman de l'un d'eux.
On n'arrive pas à être vraiment en paix, ça cogite tout le temps, quoi. Je me demande, voilà, toujours, qu'est-ce qui a tué mon fils réellement?
Depuis, l'ARS, l'agence régionale d'hospitalisation, a été alertée. Elle reconnaît d'ailleurs qu'il y a un nombre plus élevé de cancers pédiatriques qu'ailleurs à Sainte-Pazanne. Pour Séverine, l'État doit mener d'urgence une étude sur le terrain.
Moi, j'ai envie qu'on cherche à tous les niveaux, c'est-à-dire l'air, le sol, sur peut-être des choses qui ont existé à Sainte-Pazanne. Qui n'existe plus. On incrimine personne. On veut que ça ne perdure pas dans les années à venir.
Et suite à la création de ce collectif, une réunion publique avec l'ARS est prévue à Sainte-Pazanne le 4 avril prochain.
Et une étude épidémiologique sera incessamment lancée, dont les résultats devraient être rendus à l'automne. Les Gilets jaunes, 20e épisode. Le scénario de ce samedi est en théorie le même que samedi dernier. Quelques lieux parmi les plus sensibles en centre-ville ont été interdits aux manifestations. Le secteur des Champs-Élysées à Paris, où 2 manifestations et 4 rassemblements ont été déclarés, en ce moment même d'ailleurs, devant la gare de l'Est notamment. La contravention de 135 euros reste en vigueur pour ceux qui voudront entrer dans les périphéries non autorisé. C'est à Bordeaux que les autorités locales se sont montrées les plus inquiètes, des renseignements laissant supposer une présence importante de casseurs. Le maire Nicolas Florian a décrété ce samedi journée ville morte et appelé les Bordelais à rester chez eux. Stéphane Iglesis, vous êtes place de la Bourse à Bordeaux. Alors qu'en est-il ? Stéphane Iglesis, êtes-vous avec nous ?
Yves, vous l'avez dit, le maire de Bordeaux dit s'attendre à une journée apocalyptique. Il a donc conseillé aux... Oui, je suis avec vous, j'espère que vous m'entendez. Le maire de Bordeaux dit s'attendre à une journée apocalyptique. Il a donc conseillé aux Bordelais de rester chez eux. Et c'est vrai qu'à une heure du rendez-vous des Gilets jaunes, la place de la Bourse, mais surtout les rues de l'hypercentre ne sont pas fournies. Les services de sécurité ont été renforcés. Il y a des gendarmes et des CRS qui sont très visibles au coin des rues. La manifestation est non autorisée aujourd'hui à Bordeaux. Les commerçants ont d'ailleurs commencé soit à fermer, soit à rentrer tout ce qui peut servir de projectile aux manifestants, parasols, tables, chaises, des terrasses, et cela à la demande de la mairie. Les mamans avec enfants en bas âge se dépêchent de rentrer à la maison. Les manifestants gilets jaunes sont en train d'arriver après avoir déjeuné sur cette place de la Bourse. Ils sont encore peu nombreux. La manifestation a habituellement réuni 4 à 5 000 personnes. Elle dure environ 2 heures avant d'être dispersée. Ce qui est sûr, c'est que les commerçants font grise mine et sont même en colère. Ils annoncent des baisses de chiffre d'affaires de 40 à 70% selon les samedis.
Stéphane Iglesis, place de la Bourse à Bordeaux. Et comme à Bordeaux, la préfecture du Vaucluse, qui craint la présence de groupes activistes violents, a interdit tout rassemblement intramuros à Avignon jusqu'à minuit. Même chose à Toulouse, Saint-Étienne, Tours ou Rouen, où des restrictions de manifestation concernent également les centres-villes. Il n'y a pas que des gilets jaunes qui manifestent ce samedi partout en France. Les principaux syndicats de l'éducation nationale et la Fédération des parents d'élèves FCPE appellent les enseignants et les parents à se mobiliser contre la loi Blanquer. La loi pour une école de la confiance, votée par les députés et qui doit maintenant arriver au Sénat. La contestation montait déjà depuis plusieurs semaines, notamment contre la création d'établissements publics des savoirs fondamentaux, un regroupement en une seule entité d'un collège et d'une ou de plusieurs écoles du même secteur, qui fait craindre aux syndicats une importante réduction du nombre des directeurs d'école. Invité de ce journal, Claire Crépère, secrétaire nationale du syndicat UNSA de l'éducation. Bonjour.
Bonjour.
La lettre du ministre qui a été envoyée à tous les profs hier ne vous a pas rassuré sur ce point?
Alors non, pas complètement. Bon, on voit bien que le ministre Blanquer, sous la pression des mobilisations et des expressions des organisations syndicales, commence à reculer et commence à dire qu'il est prêt à modifier la partie de la loi qui touche effectivement aux établissements publics des savoirs fondamentaux. Mmh. L'important pour nous, c'est bien de maintenir la pression, parce que la loi va passer au Sénat au mois de mai et c'est là qu'elle doit changer. Si les termes de la loi ne changent pas, nous ne pourrons pas obtenir ce que nous souhaitons, c'est-à-dire que ce type d'établissement ne se construise pas sans l'avis de la communauté éducative, sans l'avis à la fois des personnels, mais aussi des parents usagers.
Mais c'est le cas, le ministre l'a répété plusieurs fois, qu'il faut un consensus local pour que ça se fasse, sinon ça ne se fera pas. Il l'a dit sur France Inter. Alors, encore cette semaine.
Oui, c'est ce que le ministre dit, mais ce n'est pas ce que la loi dit. Et donc nous souhaitons effectivement obtenir des garanties pour que la loi, le texte de la loi soit bien modifié pendant le passage au Sénat, pour que ce soit inscrit dans la loi et qu'on ne puisse pas ensuite nous dire « mais vous voyez bien, la loi ne le prévoit pas, donc nous ne pouvons pas le faire ».
Alors sur le fond, Claire Crépère, est-ce que regrouper les équipes pédagogiques entre un collège et une ou plusieurs écoles, est-ce que ça a quelque chose de bien, ça peut créer un vrai lien, une vraie continuité de l'école au collège ?
Alors nous sommes à l'UNSA très porteurs de la continuité entre l'école et le collège. C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup parce que nous pensons que nous avons les mêmes élèves lorsqu'ils sont à l'école et lorsqu'ils sont au collège. Nous avons tous les élèves et nous devons tous les faire réussir. La solution, elle n'est pas dans une structure administrative. Elle est dans la continuité des contenus d'enseignement, dans la continuité des démarches pédagogiques. C'est ça qui compte. Et c'est le travail qui avait été mené avec la définition du socle commun et l'ensemble des programmes des cycles lors de la refondation qui a été faite dans les années précédentes. Là, on entre dans une réponse administrative, structurelle, avec en arrière-plan le souci de faire des économies sur les postes de directeur. Ça ne peut pas être la bonne solution. C'est une solution verticale qui tombe d'en haut et qui ne répond pas à ce qui se fait déjà sur le terrain, parce qu'il y a déjà des initiatives qui sont prises sur le terrain pour effectivement mutualiser les moyens, les locaux, les équipements entre un petit collège et une ou deux écoles qui sont autour, en milieu rural en particulier. Nous suivons de très près ces expériences, mais qui sont des expériences qui naissent des besoins du terrain et qui ne sont pas imposées par le haut.
Donc, si je vous entends bien, vous reprochez au ministre un manque de concertation, mais avec quelques éléments qui vous rassureraient, vous pourriez entériner la mesure, si j'ose dire.
C'est ça. Alors si on est véritablement dans un dispositif où l'avis des conseils d'école et l'avis du conseil d'administration du collège sont est pris en compte véritablement, pas juste une consultation pour la forme, alors oui, on peut y réfléchir résolument.
Rapidement, un mot sur cet article 1 également, qui prévoit un devoir d'exemplarité pour la communauté éducative. Vous y voyez un rappel à l'ordre, vraiment ?
Alors, on sait que cet article 1 ne crée pas de droits nouveaux ni d'obligations nouvelles. C'est plutôt un chapeau à la loi pour introduire la notion de confiance, que très chère au ministre. Néanmoins, dans le contexte actuel, le fait que le ministre n'ait pas voulu reculer, alors que beaucoup d'enseignants lui reprochaient de vouloir les empêcher de s'exprimer, nous pose question. Il était possible, il était facile de revenir sur cet article 1, qui d'ailleurs avait été signalé par le Conseil constitutionnel comme ne servant à rien. Donc c'était facile de le retirer. Le ministre n'a pas voulu. Ça crée de la défiance, en fait, sur le terrain, même si on peut penser que l'article en lui-même ne change pas grand-chose.
Claire Crépère, secrétaire nationale du syndicat UNSA de l'éducation. Merci beaucoup.
France Inter, le journal de 13h. Yves Decan.
À l'étranger, une journée à haut risque à Gaza, dans l'enclave palestinienne, où doivent être célébrées ce samedi les marches du retour. C'était en mars 2018, une série de manifestations visant à briser le blocus israélien. Des marches à répétition contre la frontière et qui ont fait en un an 200 morts, des milliers de blessés. Ce matin encore, un jeune palestinien de 20 ans a été tué par des tirs israéliens. Étienne Monin, vous êtes le correspondant de France Inter à Jérusalem. Beaucoup de monde déjà sur la frontière.
Oui, c'est ça. Et puis, c'est une marche de protestation aujourd'hui qui, finalement, a deux objets. Au départ, c'était un moyen de pression placé par le Hamas pour tenter d'obtenir de nouvelles concessions des Israéliens. Il y a une très forte impatience aujourd'hui dans Gaza. La marche du retour en un an a fait beaucoup de morts et, finalement, très peu d'avancées sur le plan politique. C'est plutôt sur le plan humanitaire qu'il y a eu quelques points d'avancée. Il y avait donc aujourd'hui une très forte pression. En début de semaine, une roquette avait été tirée sur Tel Aviv. Les Israéliens ont positionné des dizaines de chars près de la frontière et de la bande de Gaza. Mais finalement, avec les discussions amorcées entre le Hamas et les Israéliens, cette manifestation est devenue un gage attendu par le Hamas pour montrer sa volonté, à savoir contenir la violence, cesser cette pression contre les Israéliens. Et c'est un peu ce qui semble se dessiner pour l'instant. Il y a du monde à la frontière, mais il n'y a pas de pneus en flamme, il n'y a pas de cerf-volant enflammé non plus, il n'y a pas les ingrédients qui pourraient amener à une escalade militaire. On fera le bilan en fin de journée, mais il semble que cette journée soit plutôt un gage donné par le Hamas aux Israéliens pour montrer la bonne volonté dans le cadre de discussions.
Étienne Monin sur la frontière Gaza-Israël. Et de Troyes à Londres, les députés ont comme prévu rejeté l'accord de divorce avec l'Union proposé par Theresa May, la première ministre britannique qui avait pourtant mis sa démission dans la balance. Toutes les options sont maintenant sur la table, a commenté ce matin le président du Parti conservateur, y compris une sortie sans accord qui pourrait être actée le 12 avril prochain si aucune proposition nouvelle n'est trouvée. Le feuilleton n'est pas terminé. En attendant, si de très nombreux Britanniques s'inquiètent, bien sûr, pour la suite, tous ne sont pas disposés à dramatiser. Illustration dans le Kent à Canterbury, Benjamin Mathieu.
Ils sont installés sur un banc, profitant du calme dans ce charmant jardin anglais au moment du coucher de soleil.
We're tourists. We can.
Guy et Dan sont en vacances, ils viennent du Sussex et n'ont pas du tout suivi l'actualité.
Away from the news.
Mais si Dan se tient si éloigné des informations, c'est surtout pour éviter les problèmes.
He doesn't want Brexit, I do.
Il a voté pour rester dans l'Union Européenne, sa femme pour la quitter.
You are still friends.
Vous êtes toujours amis?
Yes, we're still friends, we're still married, yeah.
Devant la fameuse cathédrale de Canterbury, majestueuse, Ellie se presse pour ne pas louper le début de l'office.
Je suis économiste.
Vous aviez voté pour rester ou pour sortir?
Je ne suis pas sûre si je peux dire. Je suis fonctionnaire. En anglais, on a une expression « to muddle through is how we do politics ». On fait les choses, on essaie autrefois et enfin on sort. Je pense que dans cette situation ici, je pense qu'on va pouvoir « muddle through ».
Essayer encore, le cardinal de Canterbury avait même demandé aux fidèles de prier pour les députés dans un message adressé sur Twitter. Un vœu pieux. Actuellement, les voies de la politique britannique sont impénétrables. À Canterbury, Benjamin Mathieu pour France Inter.
Et il reste peu de temps pour débloquer la situation. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a convoqué un sommet extraordinaire le 10 avril. Un petit problème sur les Eurostars ce matin entre Londres et Paris. Un individu sur les voies et sur le toit de la gare Saint-Pancras a été interpellé. Bien sûr, le trafic a repris après avoir été quand même totalement interrompu dans les deux sens une grande partie de la matinée. En sport, une finale sans le PSG. Ça faisait longtemps, 5 ans exactement. Mais ce soir, en finale de la Coupe de la Ligue, c'est bien Guingamp, le tombeur de Paris, justement, qui affronte Strasbourg. Le 18e de la Ligue 1 contre le 10e, énorme enjeu pour les deux équipes, dont une, Guingamp, n'a jamais remporté cette Coupe de la Ligue. Des Bretons moins bien classés que leur adversaire, mais en net regain de forme, Thomas Lavaux.
Toute ressemblance avec une situation déjà vécue est purement fortuite. Guingamp est à peu de choses près dans la même situation qu'en 2014. Il y a 5 ans aussi, en avant, n'avait pas assuré son maintien avant de jouer la finale de la Coupe de France. Il n'était pas le petit pousset, mais il n'avait pas la faveur des pronostics non plus. Il avait gagné quand même. Rebelote cette année pour le groupe de Jocelyn Gourvennec.
Je trouve que c'est une belle finale qui, sur le papier, est plutôt équilibrée. Quand Paris joue une finale, c'est quand même très très déséquilibré. Là, c'est quelque chose de différent, un peu de fraîcheur aussi d'avoir ce type de finale.
Guingamp a quand même plusieurs atouts à faire valoir. Sa situation en championnat s'est nettement améliorée ces dernières semaines, alors que Strasbourg n'avance plus depuis 2 mois. Il y a l'état de la pelouse, il est médiocre et cela pourrait peut-être pénaliser le jeu de possession des Alsaciens. Et puis, il y a l'expérience. Ce sera la 3e finale du défenseur Jérémy Sorbon, 3 de plus que le nombre de finales jouées par tous les Strasbourgeois.
Ça a toujours une saveur particulière. Que ce soit la première ou la deuxième ou plus, voilà, ça reste des parcours exceptionnels quand on peut les faire avec son club. Moi, en tout cas, j'apprécie ce parcours au maximum.
Pour préparer cette finale, en avant n'a rien changé. Ne pas sacraliser, mais ne pas banaliser non plus. Après 2009 et 2014, la recette marche en moyenne tous les 5 ans.
Strasbourg-Guingamp au stade Pierre-Mauroy de Lille, où en nombre de supporters, les Alsaciens ont déjà gagné. 20 à 25 000 d'entre eux sont attendus dans la capitale nordique. S'ils n'ont pas eu de problème, car ce matin, une panne électrique a bloqué le trafic en gare de Strasbourg où aucun train ne peut partir ou arriver. Un TGV parti de Paris est resté bloqué un long moment en gare de Lorraine. Tant pis pour le début du match ce soir, mais on est prié d'éteindre les lumières à 20h30. Toutes les lumières et donc aussi les télés pendant une heure, au moins 60 minutes pour la planète. Un geste initié par le WWF et qui prend un peu plus d'ampleur chaque année dans de très nombreuses villes et de très nombreux pays. Geste symbolique évidemment avant tout, mais pas que, comme l'explique la présidente de l'association en France, Isabelle Autissier. Elle est au téléphone de Matteo Maestracci.
C'est un moment symbolique, mais c'est pas que un moment symbolique, c'est aussi de plus en plus le moment pour un certain nombre d'acteurs, qu'ils soient l'État ou des collectivités, ou pourquoi pas des entreprises et des citoyens, de prendre un certain nombre d'engagements et de dire, ben voilà, à l'occasion de Earth Hour, on décide de faire autrement et on décide qu'on veut que ça change. C'est un moment important pour se rendre compte combien on est nombreux et combien on est porté tous ensemble par un mouvement. Et il faut des rendez-vous comme ça, d'abord parce que, honnêtement, ça nous remonte le moral, parce que des fois, la réalité n'est pas toujours très simple. Donc ça fait plaisir de se retrouver, quitte à ce que ce soit aussi des moments festifs. Et puis ça permet aussi de montrer la puissance de ce mouvement et son ancrage dans les populations à tous nos dirigeants, y compris d'ailleurs les dirigeants des grandes industries. Ça leur permet de dire c'est pas une lubie de quelques-uns, c'est vraiment un mouvement très fort et maintenant il faut vraiment y aller vite.
Jusqu'à la Tour Eiffel qui sera éteinte à 20h30, pétante, rien à voir avec le passage à l'heure d'été qui interviendra sans un bruit la nuit prochaine pour nous enlever une heure de sommeil à 2h. Il sera 3h. Allez avoir à faire ce week-end pour les amateurs de romans policiers la 15e édition de Quai du Polar à Lyon. Une affiche toujours aussi riche, Brian De Palma, Roberto Saviano, Michael Connelly et la reine du crime, Elisabeth George, qui revient avec son dernier opus, La punition qu'elle mérite. 20e enquête de l'aristocratique inspecteur Linley et de sa coéquipière Barbara Avers. Ilana Mor-Youssef, toujours aussi fan.
Dans la paisible bourgade de Ludlow, un jeune diacre accusé de façon anonyme de pédophilie est retrouvé pendu. Leur hiérarchie semble pressée de classer l'affaire, mais le très policé Thomas Linley et la bouillonnante Barbara Avers flairent le poteau rose. Et s'il ne s'agissait pas d'un suicide? À Ludlow, les étudiants ont le goût de la fête, mais un verre de trop et un dérapage est si vite arrivé. Elisabeth George.
Le sujet que je voulais explorer est quelque chose qui se produit énormément aux États-Unis. Ce sont les viols de jeunes femmes qui ne sont pas en mesure de réagir. C'est devenu un gros problème aux États-Unis. J'ai écrit ce livre avant le mouvement MeToo, mais l'idée de la colère des femmes est quelque chose en quoi je crois depuis longtemps. Quand on regarde les infos, je dis souvent à mon mari, voilà pourquoi les femmes sont en colère.
This is why women are angry.
Comme toujours dans les enquêtes d'Elisabeth George, l'intrigue principale est irriguée par plusieurs histoires secondaires et l'auteur explore avec brio toutes les strates de la société britannique et la complexité des liens familiaux.
La punition qu'elle mérite par Elisabeth George, traduit de l'anglais par Isabelle Chapman aux éditions des Presses de la Cité. Autre recommandation du service culture, le replay sur le site internet de la chaîne Arte du dernier documentaire d'Agnès Varda, présenté au mois de février au festival de la Berlinale, Varda par Agnès. C'est visible jusqu'au 16 mai, un documentaire en deux parties dans lequel elle parle de son travail, de ses inspirations. Et puis le nouvel album de Cécile Corbel, Enfant du Vent, un conte musical entre culture celtique et japonaise qui nous transporte dans le monde de l'enfance, un album cosmopolite pour les grands rêveurs. Cécile Corbel, Enfant du Vent, avec une chorale d'enfants. Le temps.
La météo, avec Préfond, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfond-retraite.fr.
Jean-Michel Golinski.
Des températures partout confortables cet après-midi avec une moyenne de 20 degrés sur le pays sous un soleil rayonnant. On marquera un ciel un peu plus chargé, plus variable sur les côtes de la Manche avec éventuellement une ondée sur les Hauts-de-France. Sur les Pyrénées, les nuages vont également s'accumuler au fil de l'après-midi. Demain, changement pour les régions septentrionales de la Bretagne à la Belgique avec le retour des nuages entrecoupés d'ondées éparses, le tout poussé par un vent de nord-est désagréable et plus frais, surtout en bord de mer. Un ciel plus voilé également l'après-midi sur les Pyrénées, puis dans les plaines du sud-ouest en fin de journée. Ailleurs, maintien du soleil et de températures confortables après les grisailles matinales plus denses du golfe du Lion à la plaine toulousaine.